Radio Campus, il est 16h.
Souviens-toi, était-ce mai, novembre ici ou là, était-ce un lundi, je ne me souviens que d'un mur immense, mais nous étions ensemble, ensemble.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur 106.6 Radio Campus Lille dans l'émission Ensemble tous ensemble. Nous sommes le mardi 3 juin 2025 et vous nous écoutez soit en direct sur Radio Campus Lille, soit en podcast depuis les plateformes de podcast habituelles Spotify, Apple Podcast et Deezer. Nous sommes ensemble pour une heure d'émission. Nous espérons que vous avez apprécié la dernière émission avec Michel Billet et que peut-être vous aurez envie de lire ou relire ses romans de sociologie. Aujourd'hui, nous abordons un nouveau sujet, toujours en lien avec notre émission sur le vieillissement, qui est l'accompagnement des seniors à domicile et plus particulièrement les SAD, services d'aide et d'accompagnement à domicile. Quelques chiffres que nos invités pourront détailler à leur échelle. D'après Lab Autonomie, le secteur compte aujourd'hui environ 570 000 aides à domicile, dont 96% sont des femmes. L'âge moyen de ces professionnels est de 49 ans. D'après la DRES, Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, fin 2022, 1,3 million de personnes âgées de 60 ans ou plus percevaient l'APA, allocation personnalisée d'autonomie, représentant 7,2% de cette tranche d'âge. Cette allocation est essentielle pour financer les services d'aide à domicile. Enfin, d'après l'adresse toujours, en 2022, les départements ont consacré 8,4 milliards d'euros aux aides sociales pour les personnes âgées, incluant l'APA. Les dépenses pour les aides aux personnes handicapées ont, elles, atteint 9,7 milliards d'euros la même année.
Merci Pauline pour ces chiffres qui sont importants quand nous savons qu'aujourd'hui, bon nombre de seniors souhaitent rester vivre à domicile. Ça représente environ 85% selon les derniers sondages. Pour en savoir plus sur ce qu'est le service d'aide à domicile, aujourd'hui on accueille dans nos studios différentes organisations. Alors représentées par Karl Kivuvu Kissal, responsable régional de la FEPEM, Fédération des particuliers employeurs de France, délégation Hauts-de-France. Bonjour Karl.
Bonjour.
Hélène Gourdin, responsable de l'agence Petit-Fils Villeneuve d'Ascq. Bonjour Hélène.
Bonjour à tous.
Ensuite, nous avons Cécile Affetouche, auxiliaire de vie pour l'agence Petit-Fils de Villeneuve d'Ascq. Bonjour.
Bonjour.
Et enfin, Mélissa Kaoul, directrice d'agence chez Agénior. Bonjour Mélissa.
Bonjour.
Bienvenue à vous dans notre émission Ensemble tous ensemble, diffusée donc sur Radio Campus Lille et en podcast. Et donc, merci de vous être déplacés jusqu'à nous. Si ça vous va, on va commencer l'émission en vous questionnant, vous, Karl. Pouvez-vous nous expliquer ce que représente la Fédération des particuliers employeurs de France ?
Alors, en quelques mots, la Fédération des particuliers employeurs est l'organisation patronale qui représente, au fait, en France et dans les territoires, les particuliers employeurs, c'est-à-dire ceux et celles qui recrutent en direct pour les métiers d'aide à domicile notamment. Et donc la FEPEM a donc un rôle de représentation et un rôle aussi de dialogue social avec les différents acteurs justement de la branche.
Alors du coup, est-ce que autour de la table, là, ça veut dire que Adenior, Petit-Fils et d'autres organismes peuvent se regrouper grâce à vous ? Comment ça se passe ?
Je dirais, il faut regarder, parce qu'effectivement, à l'autour de la table, je sais que les acteurs le savent, mais il faut peut-être rappeler que dans l'aide à domicile, il y a grosso modo deux pôles. Il y a le pôle prestataire, d'une part, et il y a le pôle, on va dire, entre guillemets, individuel. Alors, ce pôle individuel est donc représenté par une fédération, c'est la FEPEM. Et dans ce pôle, il y a, on va dire, deux grandes familles. Il y a une famille, d'une part, où je recrute en direct. Voilà, je suis particulier employeur. Ou d'une autre part, je passe par un mandataire. Et dans ce contexte-là, effectivement, si on passe par un mandataire, certes, on reste employeur, mais on délègue au mandataire la question, on va dire, administrative de la relation d'emploi.
Ok. Et donc, est-ce qu'on peut expliquer la différence? Parce que là, au sein des studios, il y a donc Petit-Fils, qui est plutôt un service privé. À Daignor, vous êtes mandaté par Petit-Fils, je ne sais plus exactement. Et donc, je sais qu'il y a le secteur public, il y a le secteur privé. Il y a, alors, parfois, on peut parler d'associatif aussi. Et puis, on peut parler de mandataire, etc. Est-ce que l'un de vous saurait nous expliquer toutes ces différences? Est-ce que, Karl, vous pouvez répondre à cette question? Vous étiez en train de le dire un petit peu avec la différence de le fait d'être mandaté, etc.
Alors, je laisserai effectivement aussi aux autres acteurs de pouvoir me compléter sur cette question. Mais globalement, comme je le disais, c'est vraiment deux grandes familles. Hein. C'est d'une part, je suis prestataire. Et donc là, les structures prestataires ont aussi une organisation patronale. Qui du coup ce matin n'est pas autour de la table. Par contre, nous on va vraiment gérer tout ce qui est en lien finalement avec le particulier employeur. C'est-à-dire que moi particulier, je recrute en direct, en l'occurrence une assistante de vie, et ça fait de moi un particulier employeur. Et dans ce contexte-là, au fait, la FEPEM, son rôle va être justement d'accompagner ce particulier employeur dans sa relation d'emploi. Quand on est prestataire, effectivement, le prestataire va gérer toute la question, on va dire, administrative de l'emploi, alors que le particulier employeur est seul dans sa cuisine et peut être limité dans cette gestion. C'est dans ce contexte-là, nous, organisation patronale, on va venir, au fait, épauler le particulier employeur.
En fait, quand vous dites particulier employeur, c'est le senior qui souhaite avoir quelqu'un à son domicile.
Exactement.
Et qui, est-ce qu'on peut parler, par exemple, de chèque emploi-service ou des choses comme ça?
Tout à fait.
Ça peut être par ce biais-là.
Tout à fait, c'est par ce biais-là. Et donc ça, c'est l'un des modes d'intervention. Mais autour de la table, effectivement, il y a aussi d'autres modes d'intervention qu'on dit globalement privé ou prestataire.
Ouais. Est-ce qu'on peut y venir, du coup, mesdames, sur Petit-Fils? Donc, on est plutôt sur du privé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe en complément de ce que vient de dire Karl?
Donc, moi, je représente Petit-Fils, plus précisément l'agence de Villeneuve-d'Ascq. Et donc, effectivement, la principale différence entre le mode prestataire et le mode mandataire, c'est effectivement la relation de qui est l'employeur, finalement, de l'auxiliaire de vie. Donc, en mode prestataire, comme l'est Adenior, finalement, c'est l'agence Adenior qui va recruter, employer les auxiliaires de vie. Donc, elles vont avoir un contrat de travail avec Adenior, qui va ensuite leur proposer un planning d'intervention chez les personnes que Adenior accompagne.
C'est bien ça.
Nous, chez Petit-Fils, on est en mode mandataire. Donc, effectivement, la différence, c'est que nous sommes mandatés par les personnes âgées pour leur proposer des auxiliaires de vie. Mais finalement, l'auxiliaire de vie va signer un contrat de travail directement avec la personne chez qui elle va intervenir. Donc, ce statut, effectivement, comme le disait Karl, est celui de particulier employeur. Mais nous, on les rassure toujours aussi là-dessus, en leur disant que c'est un petit peu comme quand beaucoup de personnes âgées emploient des jardiniers, par exemple. C'est un peu la même chose. Comme on a un contrat pour employer son jardinier ou pour les actifs, pour employer une nounou, par exemple, ça engage forcément contractuellement, mais il ne faut pas avoir peur de ce statut de particulier employeur, d'autant plus que nous, l'agence Petit-Fils, on est derrière et on gère absolument tout au niveau administratif pour les personnes, tout ce qui est déclaration URSSAF, émission des bulletins de paie pour les auxiliaires de vie, du coup, gestion du planning d'intervention de base, des remplacements quand besoin est. Mais la différence se situe vraiment au niveau de qui et employeur de l'auxiliaire de vie, sur ces deux modes-là, en tout cas précisément. Et nous, on a fait ce choix-là, en tout cas les fondateurs de Petit-Fils, de fonctionner en mode mandataire, parce que ça fidélise finalement la relation entre l'auxiliaire de vie et la personne accompagnée. Finalement, moi, je ne peux pas mettre Pierre-Paul Jacques en intervention chez Monsieur Dupont. Je peux mettre uniquement l'auxiliaire de vie qui aura signé un contrat avec cette personne, ce qui a l'avantage de stabiliser réellement l'accompagnement, en fait, à domicile.
On y reviendra. Est-ce que, Mélissa, vous pouvez compléter le propos d'Hélène par rapport à Adenior? Vous, en tant que gestionnaire pour gérer ces les personnes qui interviennent, comment ça se passe, vous, en interne?
Donc nous, comment ça se passe? On recrute, donc chez Adenior, Villeneuve-d'Ascq, hein, on recrute nos salariés et on fait le lien entre le salarié et le bénéficiaire.
Ok, donc directement. Et alors, ça, est-ce que ça se passe dans vos locaux ou alors vous allez au domicile de la personne ? Comment
on... Alors, le recrutement se passe dans nos locaux, donc ils viennent en agence directement. Et ensuite, on va les présenter chez nos bénéficiaires lors de la première intervention au domicile.
Ok. Du coup, on disait à l'instant que ça fidélise le lien dans le temps. Cécile, vous qui intervenez du coup au domicile, j'ai juste comme ça une question. Vous allez au domicile de Monsieur Y. Si jamais vous êtes malade, comme c'est vous qui avez le contrat chez Monsieur Y. Comment ça se passe si jamais vous êtes absente ? Est-ce que vous avez une collègue ? Est-ce qu'il y a toujours des binômes qui sont formés pour que cette fidélité soit quand même là ? C'est-à-dire que vous allez revenir, vous, plus tard, mais en attendant, vous êtes malade. Comment ça se passe ?
Ça se passe comme ça pourrait se passer ailleurs, finalement. Je préviens Hélène. Aujourd'hui, je suis malade et là... Honnêtement, chez Petite Fille, je pense que ça reste quand même assez exceptionnel. Mais par exemple, aujourd'hui, je suis malade, je ne peux pas assurer mes interventions. On va aller voir auprès des collègues qui sont disponibles, qui pourraient être dans le secteur, qui pourraient être prêtes à me remplacer. Et dans ce cas-là, cette collègue est quand même dans l'obligation de signer un contrat avec le monsieur X ou Y, même si c'est pour 2 heures. Parce que du coup, c'est du particulier employeur. Et nous... À l'inverse, comme le disait Hélène tout à l'heure, ça nous évite aussi d'être envoyés un peu partout. Donc la collègue, par exemple, qui est appelée ce jour-là, est-ce que tu peux aller remplacer chez Monsieur X à tel endroit ? Est tout à fait en capacité de dire je ne peux pas parce que pour X ou Y raison, c'est trop loin, c'est pas possible. Ou pas de souci. Et dans ce cas-là, ce qui est très bien, c'est que souvent le jour même, donc... Moi, par exemple, si je devais aller chez Monsieur X du matin et que j'ai prévenu tout de suite le matin, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui soit tout de suite prêt à prendre ma relève à mon horaire. Mais si ce n'est pas possible à mon horaire, ce sera possible dans la journée. Et souvent, les personnes qu'on accompagne, elles sont quand même assez au courant. Mais souvent, dans la journée, il y a quelqu'un qui pourra me remplacer. Donc, au niveau des maladies, c'est assez pratique. Et quand c'est plus pour des absences qui vont être programmées, nous, on le sait en avant, on en parle avec nos particuliers employeurs. On a des personnes qui sont encore assez autonomes pour dire non, pour cette fois, on annule juste l'intervention et puis voilà. Et puis, par exemple, pour des congés d'été, de telle date à telle date, je serai absente. Qu'est-ce que vous voulez comme remplacement ? Quel type de remplacement ? Et donc là, la personne est tout à fait libre de dire mes enfants seront là, on met pas de remplacement, ou j'aimerais bien qu'on reste sur les mêmes horaires, les mêmes accompagnements. Ou alors des fois il y a des personnes qui forcément, comme on a des liens d'attachement, ont des fois un peu du mal à lâcher. Donc là, dans ce cas-là, nous on essaye quand même de les amener quand c'est des personnes où il y a vraiment un besoin, peut-être pas tous les jours mais un jour sur deux. Et en fait, après, moi, je contacte Hélène. Madame Intel aimerait des interventions telle date, telle date, telle date, telle heure, telle heure, telle heure. Et en fonction des collègues disponibles, le roulement se fait très bien.
Ok. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi un service d'aide à domicile ? Qu'est-ce qu'on va faire au domicile des personnes exactement ? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, en quelque sorte ? Mélissa ?
Oui, bien sûr. Donc l'aide à domicile accompagne et aide les personnes donc, en situation de handicap ou les personnes âgées, donc dans les actes essentiels et les activités ordinaires de la vie quotidienne, si je peux dire, comme l'aide à la toilette, l'habillage, le déshabillage, les courses, les préparations de repas.
Ok. Est-ce que vous avez dit personne en situation de handicap, personne âgée, est-ce qu'il y a une notion d'âge, peut-être notamment pour avoir droit à des aides financières, parce que c'est assez vaste. Personne âgée, aujourd'hui, on peut se reconnaître ou pas dedans. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a des spécificités à avoir ? Comment est-ce qu'on bénéficie de vos services ?
Alors, il y a différentes aides. Il y a l'APA, donc c'est l'allocation
personnalisée d'autonomie.
Pardon, excusez-moi.
Pas de soucis.
Donc, pour les personnes âgées.
Qui est allouée par le département, pour le coup. C'est une aide, il faut en faire la demande auprès du département.
C'est une évaluatrice après du département qui se déplace pour justement rendre compte un peu des difficultés de la personne à domicile. Et suite à cette visite, on alloue en fait un nombre d'heures d'aide à domicile, une enveloppe en l'occurrence pour la personne, qui lui permet du coup de, bah, d'amoindrir aussi les factures aussi, bah, liées à tout ce qui est prestations d'aide à domicile.
Et ça, il y a une notion d'âge pour en bénéficier. Carl ?
Alors sur la question de l'APA, oui, forcément il faut avoir un certain âge, donc on parle d'une allocation personnalisée autonomie. Après sur la composition, pour compléter Hélène, sur les critères de choix, pour y arriver à décrocher ça, bon, c'est un peu complexe de l'étayer ce matin. Mais tout dépend effectivement du niveau du besoin de la personne en perte d'autonomie.
Il y a une évaluation qui est faite.
Il y a toute une évaluation et puis on regarde aussi un peu la composition aussi familiale qui va justement dans le cadre de cette évaluation.
Avec les ressources, etc. Tout à fait. Mais il y a une notion d'âge, c'est 60
ans.
C'est 60 ans.
Et effectivement, il y a aussi une question par rapport à la PCH, qui est là la prestation compensatrice du handicap, puisqu'il y a des personnes qui, jusqu'à l'âge de 60 ans, sont sous couvert de la PCH et qui, une fois passé cet âge-là, passent après sous l'APA du fait de leur âge. Chose qui, parfois, au niveau financier, est moins avantageuse pour eux, parce que la PCH est parfois plus rémunératrice en termes d'aide que l'APA. Donc ça, c'est aussi des questions qui font un petit peu débat au niveau des prises en charge aussi, qui sont possibles pour les personnes accompagnées.
Ouais. Du coup, on entend, c'est une intervention qui est à domicile, avec plusieurs services, comme vous l'avez dit, Mélissa. Pour les personnes en situation de handicap, avant 60 ans, parce qu'il y a cette notion de finance avec ce secteur handicap, et puis passé 60 ans, aujourd'hui, en tout cas, on bénéficie d'une autre aide, mais dans tous les cas, c'est le même service qui est proposé à ces personnes-là, donc de l'aide à domicile sur les gestes de la vie quotidienne. On n'a pas forcément parlé, est-ce que ça peut être aussi au-delà d'une aide ménagère, ça peut être une aide à la cuisine, est-ce que ça peut être aussi un accompagnement plutôt social, j'ai envie de dire, une présence humaine de partager des occupations. Je vous vois toutes les deux, Hélène, Cécile, allez-y.
Bah, en fait, il faut se dire que c'est vraiment tous les actes qui vont permettre à la personne de rester chez elle le plus longtemps possible. Ce que les personnes qui passent par des services d'aide à domicile souhaitent, de toute façon, c'est vieillir chez elles. Et donc, effectivement, ça va être du simple entretien du logement à tout ce qui va être... aide aux courses, aux préparations de repas. Comme le disait Mélissa, après, on est plus sur des actes d'aide à l'autonomie. Donc, se lever, se coucher, s'habiller, l'aide à la toilette également. Et après, certains services d'aide à domicile, nous, on le fait aussi, mais c'est plus spécifique, proposent aussi des aides de nuit. Et nous, en l'occurrence, on le fait aussi, donc ce qu'on appelle des présences de nuit, ce qui est notamment plébiscité quand on a des retours d'hospitalisation où les personnes se sentent un peu faibles à la marche, etc. Ils ont besoin d'aide, principalement, c'est la vie, hein, mais pour aller aux toilettes, notamment la nuit, ce genre de choses. Nous, en l'occurrence, on est aussi capable d'intervenir 24 heures sur 24. Donc ça, c'est un petit peu les spécificités. Et je voulais juste refaire un petit point, parce que nous, on est deux services qui sont privés, mais effectivement, on a aussi des services d'aide à domicile qui sont communaux. Donc la ville de Villeneuve-d'Ascq, par exemple, a son service d'aide à domicile. Là, c'est du public, voilà. Et on a aussi effectivement des acteurs associatifs qui sont en fait sur le tarif de l'APA, en fait. Donc ils ne peuvent pas dépasser, ils ne peuvent pas faire de bénéfices. Ils sont pris en charge par l'APA, si vous voulez. Donc ça permet aussi qui, entre guillemets, pour toutes les bourses, parce que tout le monde n'est pas capable de financer un reste à charge en passant par des services privés aussi.
C'est votre cas, du coup, dans le secteur privé. Pour le service, que ce soit toujours Cécile qui aille au domicile, forcément, il y a un surplus, entre guillemets, pour la fidélisation.
Il y a un dépassement par rapport au taux que représente l'APA, oui.
C'est ça qui fait que c'est privé, c'est qu'il y a un dépassement, il y a des honoraires.
En fait, la différence du privé, c'est qu'on définit nos prix nous-mêmes, finalement, nos tarifs nous-mêmes, là où l'associatif, effectivement, n'a pas le droit de dégager de bénéfices, et donc ils sont plafonnés sur le tarif de l'APA, en fait, si vous voulez.
Ok. Du coup, on a déjà parlé des aides financières qui sont disponibles pour les familles, pour les personnes âgées. J'ai une question. Vous avez peut-être des comptes à rendre quand même. Alors, peut-être pas dans le secteur privé. Enfin, je me pose la question quand même. Est-ce que il y a des chiffres à avoir dans l'année? Il faut toucher tant de personnes âgées. Il faut faire un retour sur une mesure d'impact de cette personne, elle est restée au domicile ou elle est revenue chez elle grâce à notre service. Est-ce que vous avez des retours comme ça à faire au département, aux divers financeurs, dans le cadre peut-être du privé, etc. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous avez des retours à faire?
Il faut rappeler peut-être que pour les services, parce qu'on a, un peu refait la typologie ce matin, mais les prestataires, effectivement, sont agréés par le département. Et donc, au vu de cet agrément, forcément, il y a des comptes à rendre, hein, parce qu'il y a effectivement le département qui suit, au fait, ces différents services, que ça soit sur la qualité rendue auprès des bénéficiaires, ou encore sur divers, finalement, choses. Ça peut être aussi sur même la formation, hein, parce que le département peut aussi questionner les structures sur le niveau de formation adéquat, formation, on va dire, entre guillemets, de base, mais aussi dans une perspective de s'inscrire dans une formation continue. Donc, grosso modo, effectivement, il y a toujours des choses à pouvoir produire au niveau du département, dans la mesure où c'est le département qui gère les sujets autour de l'agrément.
Mmh. Mmh. Au niveau de petit-fils, c'est sensiblement la même chose. Vous avez des retours aussi à faire?
Alors, nous, pas nécessairement. La principale chose, je dirais, dont on doit rendre compte au département, c'est l'utilisation des plans d'aide, en fait. On doit se conformer au plan dont a besoin la personne. Et il y a aussi une question de transparence, c'est-à-dire que si une personne a, par exemple, 30 heures d'APA, qu'on n'en utilise que 20, c'est aussi à nous d'informer le département pour que la personne n'ait pas notamment des virements trop importants qui soient faits par rapport aux aides perçues par la personne au réel, finalement. Et en termes d'aide financière, je voulais ajouter aussi qu'on a la CARSAT, parce que, donc en termes de dépendance, donc il y a un niveau de dépendance qui est évalué quand on a des difficultés à domicile, qui est gradué sur une échelle qui s'appelle le GIR, donc qui va de 6, on est encore relativement autonome. 1, on est vraiment dans une grande dépendance. Et donc, de 1 à 4, on peut percevoir l'APA. En revanche, quand on est 5-6, donc encore assez autonome, là, on ne relève pas de l'APA, on relève de la CARSAT, donc qui permet quand même d'avoir une enveloppe, la caisse de retraite. Mais c'est juste pour différencier. Moi, si aujourd'hui, j'ai quelques douleurs au dos, je ne peux pas prétendre à l'APA. Ce sera plutôt, à ce moment-là, la CARSAT qui prendra le relais pour me donner une petite enveloppe, justement, pour de l'aide à l'entretien du logement, ce genre de choses.
Et ça s'appelle comment, du coup? Enfin, la CARSAT finance de l'aide c'est quand même de l'aide à domicile. Comment ça se nomme?
Oui, c'est ça. Alors, en fait, donc on a un dossier de demande d'aide à l'autonomie.
L'autonomie, ok.
C'est ça. Et donc, les personnes ont des petites croix à cocher. J'ai du mal à faire ci, j'ai du mal à faire ça. Et à la fin, on vient vous dire, si vous avez coché tel nombre de oui, tel nombre de non, vous relevez plutôt du département ou plutôt de la CARSAT. Donc, vous savez à qui envoyer votre dossier, en fait, directement, fonction de vos difficultés aussi qui ont été évaluées pendant le petit questionnaire.
C'est peut-être plus ponctuel, du coup. C'est si j'ai mal au dos à ce moment-là, je pourrais peut-être en avoir plus besoin. Ou alors, ça arrive qu'il y ait aussi des basculements, entre guillemets, des gens qui viennent par la CARSAT parce qu'ils ont un souci à un moment T. Et puis, finalement, l'état de santé se dégrade. Ça peut aussi arriver dans ce sens-là, j'imagine.
Oui, bien sûr, parce qu'après, effectivement, l'état de santé peut se dégrader à un moment donné. On peut avoir plus de difficultés sur certains actes de la vie quotidienne. Et effectivement, si dans un premier temps, on a perçu des aides de la CARSAT, on peut tout à fait après refaire une demande au niveau de l'APA pour changer, entre guillemets, de prise en charge. Voilà. Et au niveau des aides temporaires, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi beaucoup de mutuelles qui allouent aussi des aides pour les personnes. Par exemple, si j'ai eu un accident, je ne sais pas...
Les retours d'hospitalisation aussi.
Voilà, exactement. Ma mutuelle peut, pendant, par exemple, 6 mois, m'allouer une enveloppe pour avoir
des aides à domicile, ça, ça existe également. Donc ça, c'est aux personnes, après, de se renseigner en fonction de leur mutuelle, ce qui est possible de faire. Et chose très importante aussi dans les services d'aide à domicile, c'est qu'on peut prétendre un crédit d'impôt lorsqu'on fait appel à un service d'aide à domicile. Donc tout ce qu'on dépense en termes d'aide à domicile fait l'objet d'une déduction fiscale de l'ordre de 50%. Voilà.
Et tout à l'heure, effectivement, vous aviez abordé, alors pour moi, deux sujets sur lesquels je voulais revenir. La constitution des dossiers, est-ce que vous aidez le senior ou la personne handicapée à constituer le dossier? Et oui, vous avez dit tout à l'heure aussi, en fonction de leur virement. Donc ça veut dire que qui touche l'argent finalement de l'APA? Est-ce que c'est directement le bénéficiaire ou est-ce que c'est vous? Mais peut-être qu'en fonction de vos structures, c'est pas le même mode financier. Et voilà, le crédit d'impôt, on sait qu'il peut exister. Est-ce qu'il peut y avoir des avances? Parce que ça reste effectivement une question. J'ai deux questions du coup.
Alors, je vais répondre pour la partie petit-fils. Après, je laisserai répondre Mélissa pour ce qui est prestataire. Donc, effectivement, nous, l'APA, lorsque les personnes ont un plan, est divisé en deux modes de versement. Donc, les chèques emploi-service qui viennent rémunérer vraiment la prestation. Donc, ça, les personnes reçoivent leur chèque d'emploi-service. Et nous, tous les mois, on bip ces petits chèques. Je m'amuse à faire la caissière. Et ensuite, ils ont une partie qui, là, concerne les charges sociales parce qu'ils sont employeurs, donc ils ont des charges aussi à payer. Et là, ils reçoivent donc une partie par virement, c'est celle qui représente les charges sociales. Voilà. Donc, il y a deux. Lorsqu'on a, imaginons, 50 euros d'APA, il y a peut-être 40 qui va être sous forme de CESU et 10 sous forme de virement. Voilà, c'est un exemple.
Et là, il y a de la déclaration URSSAF.
Oui, c'est nous qui déclarons.
C'est vous qui déclarez,
parce que j'allais dire pour le
senior, c'est pas forcément toujours facile.
Non, tout à fait. Nous, de toute façon, en fait, on perçoit, on prélève les charges, et c'est nous qui, effectivement, une fois par trimestre, reversons l'intégralité des charges à l'URSSAF, tout à fait. Et donc, effectivement, en termes de crédit d'impôt, donc vous en parliez, il y a aussi des avances qui existent. Maintenant, il y a le crédit d'impôt immédiat qu'on met en place, qui permet, au lieu d'attendre un an, de voir un gros montant revenir, d'avoir la déduction au mois le mois de 50%, donc finalement, tous les mois, d'avoir une facture divisée par deux. Quoi.
Ça marche. Est-ce que vous avez le même fonctionnement chez Adenior?
Alors nous, pour l'APA chez Adenior, on perçoit directement l'aide donc chez nous. Et par contre, les bénéficiaires, quand ils ont un reste à charge, ils doivent nous le régler.
D'accord.
Donc ça se passe comme ça. Ensuite, pareil, on a aussi le fonctionnement de la réduction du crédit d'impôt, donc qui se fait tous les mois maintenant aussi pour les clients, les actifs. Et
du coup, voilà. Quand les personnes arrivent chez vous, est-ce que les dossiers sont déjà faits ou est-ce que vous pouvez aider à les monter?
Alors, les deux sont possibles. Des personnes arrivent déjà avec un plan d'APA constitué. Donc là, c'est à nous d'informer le département qu'il va y avoir un changement d'intervenant à domicile. D'autant que, question très importante, c'est que nous, en mode mandataire, on a une prise en charge qui est moins importante pour l'APA. Donc, en l'occurrence, en prestataire, je ne sais même plus, on est à 23 euros à peu près en taux plein.
Pour l'APA ?
Oui.
On est à 24,58
euros. Oui, voilà. En mandataire, on est à 14,73 euros. Donc, vous voyez, il y a un delta qui est quand même hyper important sur moi. Une personne à 100% en APA, elle aura 14,73 €. Quand en prestataire, elle aura 24,58 €. Donc, il y a quand même 10 euros d'écart entre les deux, ce qui n'est pas négligeable. Donc, ça, c'est aussi à nous de le dire quand il y a un plan APA. Attention, ça, on ne le ment pas. En passant en mode mandataire, vous aurez une prise en charge qui sera moins importante, malheureusement. Ça, on espère que les choses changeront un jour. Mais donc, c'est à nous d'avertir le département quand il y a un changement d'intervenant. Maintenant, quand il n'y a pas du tout de plan APA et que les personnes souhaitent faire un dossier, deux choses sont possibles. Soit il y a des proches aidants qui sont présents et tout à fait mobilisables. Et à ce moment-là, on ne va pas faire à leur place. Parce que s'il y a des aidants qui sont proches de leurs parents, qui sont tout à fait en mesure de réaliser le dossier, à ce moment-là, nous, on leur donne le dossier et puis ils se chargent de la démarche. Maintenant, si c'est une personne qui est isolée, bien sûr, on ne va pas la laisser se débrouiller toute seule. Ou si une personne qui a des troubles, etc. Donc, dans ces cas-là, par contre, on aide pour la complétude du dossier sans problème. Ouais.
Si ça vous va, on va faire la pause musicale de cette émission avec Michel Fugain, Une belle histoire. Ce titre évoque le parcours de vie, la question du temps qui passe et de l'importance des liens humains. L'auteur de la chanson dit « Il rentrera chez lui, là-haut vers le brouillard, elle est descendue là-bas dans le midi. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. »
« C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant. Se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance qui cueillirent le ciel. Comme on cueille la Providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait. Se sont quittés au bord du matin, sur l'autoroute des vacances. C'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin, saluèrent la Providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle est descendue là-bas dans le midi.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui.
On est bien de retour sur 106,6 FM Radio Campus Lille avec l'émission Ensemble, tous ensemble, réécoutable à tout moment, en podcast sur les plateformes habituelles, Spotify, Apple Podcast et Deezer. Nous reprenons le cours de l'émission que nous dédions aujourd'hui au service d'aide à domicile. Cécile, est-ce que maintenant on peut vous challenger un peu sur comment ça se passe véritablement, votre intervention, comment ça s'organise finalement au quotidien?
Pour décrire un petit peu une journée type qu'on puisse avoir en tant qu'auxiliaire de vie, je vais prendre un petit peu une journée que je peux vivre en ce moment. Donc en ce moment, j'accompagne actuellement 5 particuliers employeurs que je connais pour la plupart depuis déjà pas mal d'années. D'où l'avantage d'avoir des particuliers employeurs, c'est qu'on peut les garder sur du long terme et ça crée vraiment des relations très fortes et la personne aidée se sent vraiment en sécurité avec nous. Donc on va prendre un lundi basique par exemple. Donc moi le lundi je commence à 9h15 chez une petite dame et là c'est vraiment un accompagnement qui est global. Donc on passe de l'aide à la toilette, à l'entretien du logement, à de la préparation alimentaire, à la prise de rendez-vous, à l'accompagnement des fois de rendez-vous. Donc cette dame, je l'accompagne tous les matins 2h30. Et en fait, pendant 2h30, on s'articule autour de tout ça. Donc ça n'a pas le temps d'être monotone, puisqu'en plus c'est une dame qui sait ce qu'il veut. Donc quand on arrive, elle sait que bon, le matin, on fait une petite liste, on fait ça, et ça s'articule, mais quand même souvent autour des mêmes choses, donc de l'aide à la toilette ou des soins de corps, un peu d'entretien de logement, de la préparation des repas, et des prises de rendez-vous, ou aussi les aider à garder du lien avec leur famille, donc regarder s'ils ont eu des messages, peut-être passer des coups de téléphone. Avec cette dame, c'est assez global. Le petit couple chez qui je vais juste après... J'ai perdu mes mots.
Pas de souci.
Juste après cette dame, j'accompagne un petit couple. Et là, par exemple, c'est typiquement que pour de la préparation de repas. Donc, on a un temps qui est dédié. C'est préparation de repas. Donc, des fois, il y a des portages de la ville. Et souvent, bon, nous, quand on y va, c'est plus vraiment pour faire de la préparation de repas complète. Donc, entrée, plat, dessert, des choses qui sont cuisinées... préparation de repas, service du repas, la personne prend son temps pour manger comme il faut. Entre-temps, bah, nous, on fait du petit entretien, la vaisselle, voilà. Ensuite, par exemple, bah, après ça, je fais de l'accompagnement. Donc là, typiquement, c'est une petite dame qui adore sortir, mais qui n'est plus capable de le faire vraiment toute seule. Et c'est pareil, c'est un accompagnement qui peut être très vaste. Ça peut aller juste du petit tour dans le quartier à la mener un peu plus loin parce qu'elle a envie d'aller à tel endroit, l'amener voir de la famille, des amis, faire des activités particulières.
Et ça, est-ce que c'est nouveau ? Enfin, ça a été, il me semble, rajouté après le Covid, si je ne dis pas de bêtises, de l'accompagnement pur et dur, plutôt du social, de dire, bah, y a peut-être des gens qui ont juste besoin de ça, d'une compagnie. Il me semble que ça a été rajouté, ce n'est pas 2 heures par mois.
Des heures de convivialité.
Des heures de convivialité. Est-ce que vous pouvez me confirmer ça, Hélène et Mélissa ? Est-ce que ça a été rajouté à la suite du Covid, là où avant, ce n'était pas vraiment acté ? Ou alors, ça a toujours été le cas et vous vous êtes toujours permis de faire ce genre de choses ?
Donc nous, chez Petit-Fils, tout ce qui est prestation de compagnie, ça a toujours fait partie de notre offre de service. Maintenant, c'est vrai qu'on essaye de le mettre beaucoup plus en avant aujourd'hui. On a aussi des flyers de communication spécialisés sur le thème de la compagnie et la vie sociale, parce qu'on observe que c'est vraiment une demande, et notamment aussi pour les personnes en structure. On intervient aussi auprès de personnes qui résident en EHPAD ou en résidence service. Il y a énormément d'animations qui sont proposées dans ces structures-là, mais parfois les personnes ne s'y retrouvent pas et souhaitent avoir un accompagnement peut-être un peu plus individualisé. Donc c'est tout à fait possible pour ces personnes-là qui souhaitent par exemple aller avec leur auxiliaire de vie, aller prendre un petit thé en ville, se balader, flâner, ce genre de choses. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et nous, on essaye aussi de favoriser ça en constituant aussi une ludothèque en agence pour pouvoir aussi leur mettre à disposition des petits jeux spécialisés pour les personnes âgées qui vont aller stimuler la mémoire, ce genre de choses. C'est des interventions qui, en plus, sont plébiscitées par les auxiliaires de vie parce que, forcément, c'est des temps beaucoup plus sympathiques à partager avec la personne. Donc, c'est vrai qu'on essaye de plus avancer là-dessus, en tout cas se faire connaître là-dessus aussi.
Mélissa, est-ce que vous rejoignez Hélène sur le fait qu'il y a une attention qui est portée aussi à ce lien social qui est peut-être un peu plus demandé depuis le Covid, ou c'est pas forcément le cas ?
Si, tout à fait. Chez nous aussi, on avait ça déjà avant le Covid qui était mis en place. Et là, maintenant, en agence, on propose aussi actuellement des ateliers pour les personnes isolées. Donc, qui n'ont personne à voir dans la journée. On propose des petits ateliers en agence où on crée avec eux, comme dernièrement, des éponges zéro déchet, des activités qui leur font changer de leur quotidien, éviter qu'ils soient seuls à domicile.
En créant des petits groupes, finalement, de bénéficiaires en agence.
Tout à fait, avec leur auxiliaire de vie.
Et puis peut-être aussi pour changer le regard entre l'aidant et l'aidé, qui ne soit pas que dans les gestes du quotidien.
Tout à fait.
Alors, on en est à 3 activités, Cécile, trois personnes accompagnées.
C'est ça.
Est-ce que le lundi est terminé ?
Eh bien, le lundi n'est pas encore terminé. parce qu'après ça, donc, je vais rendre visite à un petit monsieur que j'accompagnais depuis 4 ans. Malheureusement, le contrat va prendre fin parce qu'il est rentré en EHPAD, mais je l'ai accompagné jusqu'au bout. Et donc là, en EHPAD, je l'ai accompagné un petit peu justement pour s'intégrer à l'établissement. Donc, je l'ai accompagné aux activités. Et aussi, je lui proposais en chambre... Plutôt, il adore la belote, donc on joue à la belote, on peut faire des mémos, donc ils sont mis à disposition, par petit-fils. Donc vous voyez que moi qui ai connu les deux modes, en fait, l'avantage qu'on a, nous, en tant qu'auxiliaire de vie de particulier employeur, c'est qu'on est là, si je suis 2h30 pour Madame Intel, c'est 2h30 que pour elle, et je ne me sens pas, je sais comment est présentée ma journée. Je sais comment m'organiser et je peux être à 100% avec chacun Et en fait, c'est vraiment un accompagnement qui est bah, sur mesure, entre guillemets. Et donc voilà, le lundi se finit comme ça,
quand même.
Et en fait, bah, l'avantage aussi qu'on a, alors je ne sais pas si je rentre un peu, mais c'est que bah, du fait d'accompagner des particuliers employeurs, on a aussi, nous, en tant qu'auxiliaires de vie, le libre, la main sur notre planning. Donc on nous propose des contrats. On nous dit, bon, on a des interventions chez un monsieur pour tel type d'accompagnement de telle heure à telle heure. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser? Et on est tout à fait libre de dire, bah, effectivement, c'est quelque chose qui peut m'intéresser et on se positionne. Et voilà. Et on est aussi tout à fait libre de dire, bah, ça ne matche pas avec mon planning de vie privée. Et en fait, bah, non. Ce qui est un peu plus compliqué, par exemple, je pense, chez des agences comme Adenior, où comme là, on est employé d'Adenior, c'est Adenior qui choisit quand même. Bon, je pense qu'il y a quand même une demande qui est faite auprès des auxiliaires de vie pour. Mais moi qui ai pu travailler dans une autre structure où là on n'avait vraiment pas de libre arbitre, on nous imposait entre guillemets un planning et la vie personnelle n'entrait plus du tout en compte. Donc on a aussi cet avantage-là d'être à 100% dans le travail parce qu'on sait qu'à côté de ça on pourrait être 100% dans notre vie. Et que l'un ne va pas empiéter sur l'autre. Donc voilà un petit peu comment s'articulent mes journées.
Dans l'équilibre, effectivement. Ben, merci pour ce témoignage. Moi, je voulais en rajouter un. Aujourd'hui, effectivement, il y a une structure associative qui n'a pas pu être présente, mais une assistante de vie nous a déposé un témoignage que j'aurais voulu vous lire. Donc, il s'agit de Flavienne Biéran de l'association AMSD, donc pour Association Madeleinoise de Soins à Domicile, que je vais me permettre de vous lire, où elle nous explique un peu son quotidien. Du coup, mon métier d'assistante de vie à la Madeleine, métier que j'exerce par le biais de l'AMSD Emplois Familiaux. Je suis assistante de vie depuis 2018. Après plusieurs années auprès des enfants, mon chemin de vie m'a conduite vers un tout autre public, celui des aînés, ceux qui sont jeunes depuis plus longtemps. L'association AMSD Emplois Familiaux située à la Madeleine est mon allié, plus particulièrement Monsieur Ostrat, Madame Robin, Alexandre et Stéphanie. Ensemble, ils contribuent au bien-être des assistantes de vie et surtout à améliorer la qualité de vie des personnes âgées que nous accompagnons au quotidien. Nous sommes un trio, c'est ainsi qu'il faut l'entendre et ça fonctionne très bien. Le métier d'assistante de vie est à la fois un défi, mais aussi une source de grande satisfaction. Le sentiment d'utilité y prend tout son sens. C'est une immense gratification qui contribue à un épanouissement personnel. Il faut toujours garder à l'esprit que chaque fait et geste accompli doivent avoir du sens pour la personne que l'on accompagne. Cependant, il y a des moments de fatigue, de tristesse, parfois avec des décès, et de frustration, surtout lorsque nous sommes face à la solitude ou à la souffrance de certains. C'est un métier profondément humain où l'empathie, la bienveillance et la patience sont essentielles. J'ai la chance de rencontrer des personnes formidables, de partager des moments précieux et de contribuer à leur bien-être. Les sourires, les gratitudes, les petites victoires du quotidien me rappellent constamment pourquoi j'ai choisi ce métier. Jour après jour, une relation de confiance s'installe et les histoires de vie apparaissent. Je tiens à exprimer ma reconnaissance envers l'AMSD pour son soutien et son aide précieux. Grâce à elle, j'ai pu trouver une opportunité professionnelle qui correspond à mes attentes. Dans cette association, on conserve l'humain, on est à l'écoute, on accompagne et on s'engage. Tous ensemble, nous nourrissons notre cœur et nous faisons en sorte que les personnes âgées à domicile vieillissent bien. Voilà pour ce mot et je trouve qu'effectivement le trio est top et l'équilibre que vous disiez un petit peu entre le pro et le perso et cet enrichissement, cette création de lien entre l'aidant et l'aidé qui n'est pas purement dans l'acte finalement, mais qui va au-delà et aussi vers ce lien social. Voilà, merci à elle pour ce témoignage.
Et donc, du coup, on a entendu là un peu les qualités qui ressortent. Moi, j'aurais envie de vous poser cette question-là, d'aller un peu sur le recrutement. J'imagine que Cécile, vous partagez le témoignage qui vient d'être dit, oui. En termes d'écoute, avoir du sens dans son travail, de l'humain avant tout, etc. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes allé vers ce métier et après, on vous challengera, mesdames, sur le recrutement, parce qu'on sait que c'est aussi une problématique. Du coup, Cécile, qu'est-ce qui fait qu'on se dit, bah tiens, je vais faire de l'aide à domicile?
Bah, pour ma part, c'était pas ce qui était choisi de prime abord. On va dire ça comme ça. Je me suis quand même dirigée vers un bac pro accompagnement sur un service à la personne. Mais à la base des bases, je m'étais dit les enfants. Et dans ce cursus, on est obligé de passer par des stages auprès d'un public un peu plus âgé, on va dire. Et de ce fait-là, j'ai fait un stage auprès des personnes âgées à domicile. Et en fait, ça a été la révélation. C'est des personnes dont on a tellement à apprendre. Et puis, ils ont eu aussi... on va dire que bon, moi, là, j'ai 28 ans. J'accompagne des personnes qui ont vécu pas mal de choses au cours du siècle dernier, on va dire. Et c'est tellement enrichissant. Et elles ont tellement... En fait, je pense que, sans s'en rendre compte, elles nous apportent plus à nous que ce que nous, on peut leur apporter. Okay. Et depuis, bah, en fait, je me suis lancée là-dedans. Et j'ai eu un enfant en 2019. Et ça m'a encore plus amenée vers petit-fils parce que je voulais encore plus que mon métier colle à ma vie. Donc, pour avoir, c'est ce que je disais...
L'équilibre.
Un équilibre parfait. Parce qu'on, comme on travaille avec de l'humain, c'est un public, comme le disait Hélène, qu'on peut accompagner de jour comme de nuit. Et des fois, en tout cas, là où j'ai pu travailler avant, cet équilibre n'était pas toujours respecté. Donc les journées, elles étaient plutôt à rallonge. Et je ne voulais pas faire une croix sur mon métier pour privilégier ma vie. Je voulais vraiment trouver le juste équilibre. Et donc petit-fils m'a permis de pouvoir garder cet équilibre. Et je pense que donc, pour travailler auprès d'un public âgé, je dirais 3-4 qualités grosso modo, c'est surtout adaptabilité. Parce qu'on travaille au domicile, dans des structures, c'est assez carré, c'est assez réglé, mais au domicile, c'est l'adaptabilité avant tout. Être à l'écoute, c'est souvent un public qui a vraiment en fait, besoin de parler plus qu'autre chose. Adaptabilité, écoute.
Empathie, moi, j'aurais
empathie,
dit.
Empathie, ça fait partie de l'écoute, mais ouais, aussi une certaine empathie, parce que... Comme je le disais, comme on accompagne un public qui a vécu tellement de choses, il faut aussi prendre en compte l'âge, le vécu et aussi toutes les pathologies qui, malheureusement, avec l'âge, se déclarent. Donc, adaptabilité, écoute, empathie, gentillesse, bienveillance, mais...
Mélissa, vous voulez compléter
surtout, ouais.
Du coup, c'est vos critères de recrutement aussi, Mélissa.
Ouais,
de l'autre côté, comment on recrute une assistante de vie? Ou un assistant de vie d'ailleurs.
Ouais. Eh bien, on prend ces critères en compte aussi, la bienveillance, l'empathie, l'écoute. À savoir que le recrutement, c'est une croissance anticipée du marché sur les services à la personne. Ça présente des défis majeurs à relever, parce qu'on est toujours dans le besoin.
Est-ce que c'est un recrutement qui est difficile au quotidien? Est-ce qu'il y a des phases, par exemple, après le Covid, est-ce qu'il y a eu un relan et les gens se sont dit, finalement, les gens étaient isolés, ils étaient chez eux, etc. Est-ce que vous avez senti ça? Pas spécialement, c'est toujours une difficulté, Mélissa, pour recruter?
Il y a toujours une difficulté, oui.
Ouais.
On a toujours besoin de recrutement et on recrute en permanence.
Ok. Et Karl, vous vouliez revenir aussi là-dessus, sur cet enjeu-là, avec le vieillissement de la population aussi?
Oui, je dirais qu'il y a une sorte d'effet ciseau entre le besoin actuel, c'est-à-dire qu'on est dans des métiers où on a besoin de recruter parce que les besoins sont énormes, et d'une autre part, au-delà même des besoins actuels, on sait aussi que la population d'assistants de vie partira massivement à la retraite d'ici à 2030. Donc 2030, c'est dans 5 ans. Et si je reprends un chiffre de notre observatoire qui est assez éloquent, souligne que 58% des assistants de vie partiront à la retraite d'ici à 2030. Donc, effectivement...
Il y a un double effet. Le vieillissement de la population qu'on accompagne et le vieillissement des professionnels.
Effectivement. Et donc là, comme le disait Mélissa, c'est qu'il y a déjà des difficultés aujourd'hui à recruter. Mais demain, il y en aura davantage avec ce vieillissement des assistants de vie, tout simplement. Donc, il y a un gros travail à faire... finalement, par tous les acteurs, les acteurs publics, nous autour de la table, à réfléchir comment on attire des publics, soit scolaires ou des publics qui viendraient un peu d'autres horizons. Un gros travail à faire avec France Travail, bref, avec tous ces acteurs qu'on connaît. C'est vraiment un enjeu majeur qu'on peut souligner ce matin.
Est-ce qu'on peut mettre en avant, du coup, la valorisation ? Effectivement, on en parle dans les médias, la reconnaissance du travail qui est fait par, alors j'ai envie de dire ces femmes, et en même temps, je sais qu'il y a de plus en plus d'hommes aussi, parce que c'est une richesse aussi. Mais comment... Est-ce que vous avez des clés pour valoriser justement ces métiers souvent de l'ombre et qui pourtant apportent énormément au quotidien de nos seniors ?
Oui, je vous rejoins. Effectivement, il y a un travail de valorisation à faire. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que pendant le Covid, on a vu qu'il y avait une bonne partie de valorisation du métier. À l'issue du Covid, ça s'est un peu arrêté. Donc, il faut qu'on reprenne un peu les choses et se dire que peut-être refaire ce qui a été fait pendant le Covid, valoriser cela. Alors, les leviers, on va dire, au niveau du territoire, de la région, c'est vraiment le travail à faire tout simplement auprès des publics qui veulent s'engager, quoi. Je pense aux demandeurs d'emploi, il faut savoir valoriser ces métiers. L'idée du témoignage, c'est très bien. Auprès éventuellement peut-être des publics scolaires qui ne connaissent peut-être pas assez bien ces métiers. Mmh. Il faut aussi aller vers pour valoriser ces métiers à chaque fois.
Et du coup, est-ce que vous avez comme ça un ou deux exemples de personnes, de bénéficiaires qui vous ont dit « Ah bah merci, parce que sinon, je vais me retourner, j'ai envie vers Cécile. » Est-ce que ça vous parle ou vous êtes rentré vous chez vous en vous disant « Purée, bah, heureusement que j'étais là, finalement, aujourd'hui, ça lui a peut-être fait du bien, ou voilà, il y a eu un maintien à domicile qui a été permis. »
Je pense qu'Hélène, elle va pouvoir confirmer ce que je dis, parce que je pense que vous avez aussi souvent des retours des personnes qu'on accompagne, parce que des fois, elles nous le disent à nous directement, ce qui est quand même assez gratifiant, mais c'est vrai qu'on a aussi la chance qu'elles le font part à l'agence. Et donc, on se sent vraiment reconnu, et même par notre agence en elle-même, il y a plein d'actions qui sont mises en place. C'est vrai que auxiliaire de vie, ça a plus tendance à être un métier un peu pas très beau, on va dire comme ça, alors que pourtant, moi qui suis dedans, pour moi en tout cas, il n'y a rien de plus beau. Mais c'est vrai que d'avoir, et en même temps les personnes qu'on accompagne, et en même temps... l'agence qui nous met en lien, qui nous valorise tous les deux, ça nous donne encore plus envie de mettre du nôtre. Donc c'est hyper important de valoriser et de glorifier les personnes qui accompagnent nos aînés.
Merci. Je suis désolée, on arrive au terme de l'émission, donc on va être obligé de couper ensemble, tous ensemble, pour ce mois de juin. Donc, un grand merci à vous de vous être déplacés, de vous être rendus disponibles dans les studios de Radio Campus Lille pour nous parler de ce beau métier dont on vient de valoriser un petit peu, et on espère que ça donnera envie à certains de devenir auxiliaires de vie parce que ce rôle, il est essentiel dans l'accompagnement du vieillissement. Voilà, certes, c'est un métier qui est complexe, mais qui mérite peut-être d'aller se questionner pour peut-être se challenger par la suite. Donc, merci encore pour votre présence.
Merci.
Merci.
Merci. Avant de conclure, on a un dernier mot à vous demander avec nos deux habitudes. On va vous demander le mot de la fin. Si on a encore des questions, si on est curieux de découvrir ce métier ou si on veut faire appel aussi à vos services, comment on peut vous contacter ? Je vais vous donner la parole à tous pour que vous puissiez nous donner ces éléments. Hélène, peut-être ?
Oui. Alors, donc, si vous êtes une personne âgée située dans l'est de la métropole lilloise, vous pouvez nous appeler au 03 74 02 71 53. Ça, c'est notre numéro. En passant par le site internet de Petit-Fils, donc en le tapant sur Google, tout simplement. Ou alors sur notre adresse mail, c'est villeneuve-dascq@petit-fils.com. Voilà. Et si vous êtes auxiliaire de vie, n'hésitez pas également donc, à savoir qu'on recrute à partir de 3 ans d'expérience chez Petit-Fils, parce qu'on est vraiment sur l'idée de travailler avec des personnes expérimentées pour
proposer aussi des, voilà, du personnel qualifié aux personnes accompagnées. Et donc là, de la même façon, vous pouvez tout à fait nous écrire un mail et on sera ravis de vous recevoir. Et moi, pour mon petit mot de la fin, je dirais tout simplement le slogan de Petit-Fils qui est vraiment celui-là, c'est la compétence d'un professionnel, l'esprit d'une famille, parce que c'est vraiment la dynamique qu'on souhaite insuffler, c'est que bah, y ait ce lien presque familial qui puisse se tisser avec l'auxiliaire de vie et qu'on fasse entièrement confiance à la personne finalement qu'on fait rentrer chez soi. Voilà, super. Tout simplement.
Est-ce que vous avez un dernier témoignage, Cécile ?
Ben, moi, ce que je pourrais dire, alors, si on a des auditeurs un peu plus jeunes, encore en cursus, ne pas hésiter à se diriger vers ces métiers qui, en plus, recruteront, comme vous le dites, toujours. C'est-à-dire que c'est vraiment un métier où on ne sera jamais dans le besoin. Voilà.
Ok, top. Je pense que le message est passé et oser franchir la porte. Mélissa ?
Oui, donc
les coordonnées et puis un petit mot de la fin peut-être.
Bien sûr, donc nous pareil, si vous êtes de la métropole lilloise et que vous recherchez donc une agence d'aide à domicile, vous pouvez nous contacter au 03 28 05 11 48. Après, nous avons également une adresse mail hein, qui est vdaleuzen@gmail.com, mais également les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn. Si vous voulez nous rencontrer en agence, pourquoi pas, on vous y attend avec impatience. C'est le 53 chemin des Crieurs, donc à Villeneuve-d'Ascq. Donc nous sommes aussi, hein, toujours comme je le disais tout à l'heure, dans le recrutement. Donc si vous êtes auxiliaire de vie ou que vous recherchez en tant qu'aide ménagère, vous pouvez également nous contacter. Et le petit mot de la fin, donc j'ai une petite citation. Je dirais qu'il ne suffit pas de guérir les corps, mais qu'il faut aussi soigner les âmes.
Wow. Effectivement, joli. Carl.
Oui, alors de notre côté, moi je donnerais plutôt un site, c'est France Emploi Domicile. J'invite effectivement ceux et celles qui aimeraient avoir de l'info à se connecter sur France Emploi Domicile. Ils pourront avoir de l'info sur c'est quoi la retraite, c'est quoi la formation, comment on fait pour aborder les sujets de la prévoyance, la relation d'emploi. Donc voilà. Il y a des fiches thématiques au fait qui pourraient effectivement permettre d'aller chercher ces infos. Et en guise de mot de la fin, moi je dirais tout simplement qu'on puisse donner de plus en plus de visibilité à ces métiers, des métiers qui accompagnent l'humain et qui sont vraiment nécessaires aujourd'hui pour notre société. Donc je prône pour plus de visibilité pour ces métiers.
Écoutez, on espère qu'avec notre émission, nos auditeurs auront compris le message et on aura mis notre pied à l'édifice, on l'espère. Merci pour ces derniers témoignages et informations. À présent, les deux habitudes de notre émission Ensemble, tous ensemble. Une citation pour nous aussi, en lien avec notre sujet. Prendre soin des autres, c'est prendre soin de l'humanité. Albert Schweitzer, je vous laisse méditer sur le sujet. Et puis nous terminons l'émission, comme depuis 2 ans maintenant, avec la lecture d'une lettre écrite par un anonyme pour un senior isolé via le dispositif Une lettre, un sourire, avant de nous retrouver le premier mardi de juillet pour une nouvelle émission d'Ensemble, tous ensemble. Bonne lecture de la lettre lue, prenez soin de vous et des autres. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Chère madame, en cette journée d'hiver, je voulais vous partager une scène charmante que j'ai observée récemment. Lors d'une promenade matinale, j'ai vu un petit écureuil affairé à chercher des provisions dans la neige. Sa détermination et ses petits bonds maladroits étaient si attendrissants que j'ai éclaté de rire, seul au milieu du monde paisible et enneigé. Ces petits spectacles de la nature nous rappellent souvent que la joie peut se trouver dans les détails les plus simples de la vie. J'espère que cette petite histoire apporte un peu de chaleur et un sourire dans votre cœur en cette journée, avec toute ma sympathie. Christine.
Souviens-toi, était-ce mai, novembre, ici ou là? Était-ce un lundi? Je ne me souviens que d'un mur immense, mais nous étions ensemble, ensemble, nous l'avons franchi. Souviens-toi, était-ce mai, novembre, ici ou là? Était-ce un lundi? Je ne me souviens.
Reviens-moi, reviens-moi, tout s'ajoute à ma vie. J'ai besoin de nos chemins qui se croisent quand le temps nous rassemble ensemble.